Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'actualité s'invite dans la campagne électorale. La question des migrants qui affluent par milliers à Calais et qui perdent parfois la vie, ou encore la chasse. Les chasseurs défenseurs de la ruralité représentent 1 million de voix. Mais les drames du moment leur donnent plus d'importance encore. Pas de blabla, des résultats. Les jeunes vont interpeller les chefs d'État à la COP26 et on attend des engagements sur les océans, principal puits de carbone de la planète. Pas de blabla, des actes. Les évêques réunis en assemblée plénière à Lourdes doivent tirer les leçons du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Enfin, l'improbable comeback nostalgique et futuriste du groupe ABBA. Ils reviennent avec un nouvel album baptisé Voyage. Un voyage dans le temps. Deux invités, Nicolas, dans 20 minutes.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. Ils sont dans le grand entretien de la matinale. Ils viennent nous présenter ce qu'ils appellent le pacte du pouvoir de vivre. Amis auditeurs, vous avez la parole. Dès maintenant, le standard vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. La saison de la chasse est ouverte. La chasse aux voix des chasseurs ou des Antilles. Il y a quelques jours, l'écologiste Yannick Jadot proposait d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Après le drame survenu près de Rennes, un automobiliste a reçu une balle dans le cou alors qu'il était au volant. Cet homme de 67 ans est finalement décédé hier. L'enquête est désormais menée pour homicide involontaire. Et on apprend qu'un autre drame du même genre a été évité avec deux retraités le même jour en Indre-et-Loire, Mathilde Bouquerel.
Ce samedi matin, après avoir fait de petites courses, le couple roule sur la départementale qui va de Noâtre à Sainte-Maure-de-Touraine. La route longe un bois sur leur gauche.
Nous avons vu trois chasseurs avec des vêtements orange fluo et on a entendu un choc à la voiture.
Ça fait une détonation incroyable, ça nous a vraiment surpris.
Et on s'est arrêté, pensant que c'était une planche en bois qui aurait pu remonter sous le plancher ou quelque chose. Et bien non, en descendant de la voiture, on a vu un pack de balles entre la petite porte du réservoir à essence et le feu arrière.
Le couple se dirige donc vers les trois chasseurs.
C'est le second chasseur qui m'a bien dit qu'il avait tiré parce qu'il y avait un chevreuil qui sortait du bois. Apparemment, la balle a ripé et elle est venue dans notre véhicule. Nous avons fait le constat. Enfin, j'ai fait le constat parce que le papy tremblait comme une feuille.
Le chasseur en question a accepté de s'exprimer. Il est bouleversé.
J'en ai pas dormi de la nuit. Alors, vous savez, c'est fait, mais bon... Il y a quelqu'un qui m'a invité à la chasse le lendemain, j'ai pas voulu y aller. Ah ben, ça me dit pas grand-chose. Tirer un plomb pour aller sur le petit gibier, oui, mais tirer à balle, je sais pas. Je suis en train de me poser la question.
Et il l'affirme, en 60 ans de chasse, c'est son premier accident.
Mathilde Bouquerel de France Bleu Touraine. D'après l'Office National de la Chasse, 410 personnes ont été tuées entre 1999 et 2019. Le téléphone sonne, il sera consacré ce soir à 19h20. Ils jouent leur vie chaque jour pour tenter de passer en Angleterre. Les migrants affluent en masse du côté de Calais et les drames se multiplient. Un TER a fauché hier des Érythréens qui se trouvaient sur la voie entre Calais et Dunkerque. Il y a un mort et une personne en urgence absolue. Pendant ce temps, 800 migrants étaient secourus en mer. La situation à Calais, qui dure depuis 20 ans, s'inscrit comme l'un des thèmes majeurs et clivants de la campagne présidentielle. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, par ailleurs candidat à la candidature, dénonce la politique migratoire d'Emmanuel Macron.
Ce président, depuis quasiment 5 ans, ne fait rien. Il n'applique pas la loi française pour expulser ceux qui n'ont pas de titre pour rester chez nous. Il ne engage pas le bras de fer nécessaire avec les Britanniques. Et il ne met pas en place la renégociation des accords du Touquet, la dénonciation des accords du Touquet. Et il ne se bat pas à des milliers de kilomètres de Calais pour que nous ayons également aux frontières de l'Europe les mesures qui s'imposent. Rien n'est simple, rien. Mais quand en 2015, j'ai été élu et que j'avais indiqué que c'était pas dans les compétences du président de région, mais que je me battrais pour obtenir le démantèlement de la jungle de Calais, on l'a obtenu. Ce gouvernement ne se bat pas, il y en a des drames. Là aujourd'hui, c'est un peu comme si on nous écoutait, il y en a eu 9000, maintenant il y en a 900, c'est bon, on peut vivre avec. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous gardons la frontière pour les Anglais. Alors il y en a marre. Les Anglais, de toute façon, sont des hypocrites. Je dénonce ces accords du Touquet.
Xavier Bertrand qui dénonce les accords du Touquet, interrogé par Marie Bernardo. Un gros plongeon aujourd'hui à Glasgow après des engagements sur les forêts, le méthane ou encore le charbon. La COP26 s'intéresse aux océans. Ils représentent 70% de la surface du globe. Ils sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le réchauffement climatique en tant que gigantesque puits de carbone. Et pourtant, les océans ne sont présents dans les discussions que depuis 6 ans, Célia Kiré.
L'océan est rarement considéré comme un élément central des négociations sur le climat. Et pourtant, cet écosystème qui occupe les deux tiers de la surface du globe est celui qui capte le plus de CO2. Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS, est venu à Glasgow justement pour avertir les politiques. L'océan ne doit pas être oublié.
L'océan et le climat sont les deux côtés d'une même pièce. L'océan capte 90% de la chaleur excédentaire qui est produite, alors que les terres n'en absorbent que 3%. Et c'est pour ça que toutes les activités pouvant impacter ou nuire à cette capacité de régulation de l'océan ont un contre-coup, un effet sur le climat.
Et parmi les solutions, ce chercheur propose de mieux protéger les mangroves, les herbiers. Il faut également éviter de racler les fonds marins avec des chaluts, arrêter de subventionner la pêche en haute mer. Yun Shin, directrice de recherche en biologie marine à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, montre également que l'océan et le climat sont interdépendants.
Si on ne réduit pas significativement nos émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attendre à une baisse de biomasse de poissons de l'ordre de 20% d'ici la fin du siècle. Mais réciproquement, l'exploitation de la mer peut aussi avoir un impact sur le changement climatique.
Et pour ces chercheurs, il sera impossible de respecter l'accord de Paris sans protéger l'océan. Cela suppose par exemple de s'interdire d'aller exploiter les mines dans les fonds marins ou de stopper l'exploration pétrolière et gazière en mer.
C'est l'IA qui irait pas de blabla. La Suédoise Greta Thunberg viendra interpeller ainsi avec de nombreux jeunes les chefs d'État sur leurs promesses à Glasgow. Certaines promesses tenues il y a quelques heures seulement ont déjà fait long feu. Celle du ministre de l'Environnement indonésien. Il s'était engagé à mettre fin à la déforestation en 2030, mais le Premier ministre n'est pas sur cette ligne. Gabriel Maréchaux.
Pour comprendre l'ambiguïté de l'Indonésie concernant la déforestation, un petit tour sur le compte Instagram de son président Joko Widodo est assez révélateur. Mi-octobre, celui-ci partageait avec ses 43 millions d'abonnés un cliché de sa personne plantant des arbres dans une mangrove à Bornéo, entouré de divers ambassadeurs, en rappelant en commentaire l'objectif qu'il a fixé, planter 600 000 hectares de forêt de mangrove d'ici 2024. Un peu plus haut, c'est une photo de lui à la COP26 qu'il poste avec écrit cette fois-ci « Des millions d'Indonésiens dépendent du secteur forestier, nier cela est irréaliste et insoutenable. » Économie versus écologie, tel est le jeu d'équilibriste que semble ainsi jouer l'Indonésie dans sa communication, mais aussi dans sa législation. Ainsi, si le Parlement vient tout juste de voter un projet de taxe carbone, c'est quelques semaines seulement avant la fin du gel des nouveaux permis pour les plantations d'huile de palme. Les moyens mis à disposition de la lutte contre le réchauffement climatique sont aussi source de bon nombre de débats. En juillet, l'Indonésie présentait ainsi sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, à condition de disposer de l'aide pour cela des pays développés. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux, France Inter.
La Chine n'a rien promis puisqu'elle est absente. Ça tombe bien car Pékin étouffe en ce moment sous un nuage de pollution. Les cours de récréation ont dû être fermés. Les centrales à charbon tournent à plein régime pour éviter les coupures d'électricité. Au Soudan, 10 jours après le coup d'État, l'armée ordonne la libération de 4 ministres sur pression des Nations Unies et d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. L'armée annonce par ailleurs la formation imminente d'un gouvernement. Le Soudan est englué, économie à l'arrêt, manifestations quotidiennes des pro-démocraties qui exigent le retour au régime de transition. Des paroles en attendant des actes, mais cette fois du côté de l'Église de France. Les évêques réunis en assemblée plénière à Lourdes consacrent ce vendredi au rapport Sauvé et ses 300 000 victimes d'abus sexuels depuis les années 50. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour Christelle.
Ils sont scrutés, ces évêques, par les victimes dont certaines ont fait le déplacement à Lourdes.
Oui, 5 sur la petite quinzaine invitées. Elles ont pris une première fois la parole devant l'Assemblée réunie à huis clos mardi avec des mots parfois très durs, notamment sur le manque de considération, invitation envoyée au compte-gouttes et à la dernière minute. Véronique Garnier a beaucoup hésité avant de grimper dans le train pour Lourdes.
Je savais pas si j'avais assez de courage pour de nouveau être dans ce dialogue, quand même par moments difficile. Finalement, j'ai pensé que ce qui nous a le plus enterrés vivants, c'est le silence. Donc, faire de nouveau le choix du dialogue, même si c'est coûteux, j'ai pensé que c'était important.
Et dans quel état
respectueuse mardi visiblement cet après-midi changement de méthode travail par petits groupes avec des laïcs. Les évêques ont voulu afficher leur volonté de s'ouvrir.
Oui, pardon de vous avoir interrompu, Delphine. Dans quel état d'esprit sont les évêques depuis le début de la semaine?
Ils sont sous pression. Les victimes leur ont dit « c'est votre dernière chance ». Ils en ont conscience, assure Hugues de Voilemont, le secrétaire général de la Conférence des évêques de France.
Le premier jour et depuis, on sent une gravité dans le cœur et dans l'expression des évêques. Une gravité et aussi une détermination pour continuer ce travail de faire de l'Église un lieu de bientraitance, de protection de l'enfance, des mineurs.
Un rassemblement de victimes est prévu demain après-midi à Lourdes pour les exhorter à prendre des décisions fortes lundi lors du vote solennel de clôture. D'ici là, les évêques sont très protégés de la presse, rien ne filtre. On sait seulement qu'une instance indépendante sera chargée de veiller à la réparation financière et que les évêques ont commencé à abonder le fonds. Quelques centaines de milliers d'euros déjà versés.
Merci Delphine Evenou en direct de Lourdes. 18 mois de prison avec sursis avaient été requis contre Alexandre Benalla pour avoir fait le coup de poing avec des manifestants à Paris le 1er mai 2018. Le tribunal de Paris prononcera son jugement tout à l'heure contre l'ancien chargé de mission de l'Élysée. La France n'est plus que le troisième producteur de vin au monde. Elle s'est fait prendre la deuxième place par l'Espagne cette année. L'Italie reste en tête. Le gel, le mildiou et la sécheresse ont affecté les récoltes. La collecte a chuté de 27% cette année. Il s'agit de volume, bien sûr, car en valeur, les exportations de champagne, de Bordeaux, de Bourgogne et de rosé cartonnent toujours. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans. L'Europe va-t-elle devoir s'y mettre alors que l'épidémie de Covid redémarre? En tout cas, elle a commencé aux États-Unis. 28 millions d'enfants sont concernés. À New York, on la pratique sur les sites installés par la ville. Reportage de notre correspondant Loïc Loury.
Au fond du City Point, un centre commercial de Brooklyn, le site de vaccination installé là depuis des mois est désormais ouvert aux plus petits. C'est Valentina, 9 ans, qui passe la prochaine.
I'm good.
Ça va, dit-elle sous son masque, la voix un peu blanche, verdict 10 minutes plus tard.
It went good, it was just like...
Ça a été. Je suis rentrée, je suis sortie, c'était rapide. J'étais anxieuse à l'idée qu'on me plante une aiguille, mais je l'ai fait. Ce n'était pas si douloureux, rien de ce que j'imaginais.
Sa mère Maria se dit soulagée, sentiment partagé par Elisabeth, la mère de Petra, 5 ans.
On voulait qu'elle soit vaccinée le plus vite possible, avant Noël.
Je travaille à l'hôpital, j'ai vu des gens malades, des gens mourir. Alors tout ce qu'on peut faire pour que ce soit derrière nous, on le fera rapidement.
Certains parents, toutefois, sont plus frileux. C'est le cas d'Alex, venu avec Sarah, 10 ans, finalement vacciné après une longue discussion avec l'infirmière.
Tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Les gens ont des inquiétudes légitimes, mais nous n'avons pas de problème de santé ou d'interrogations liées à la religion. Alors je suis contente qu'on l'ait fait.
La mairie, en tout cas, met toutes les chances de son côté pour vacciner le plus d'enfants possible. Chacun d'entre eux reçoit un autocollant et leurs parents 100 dollars. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le professeur Didier Raoult, jugé par ses pairs à Bordeaux, le célèbre infectiologue marseillais, est convoqué par la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, où l'affaire a été délocalisée. Il comparaîtra tout à l'heure pour entorse au code de déontologie, en particulier pour avoir promu l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid. Rien n'a changé pour les fumeurs de crack au nord de Paris. Un mois et demi après l'évacuation des jardins d'Éole, ils sont plusieurs dizaines regroupés, porte de la Villette. Une personne est morte d'une overdose cette semaine et aucun des quatre lieux d'accueil évoqués par la mairie de Paris n'a pu s'installer car les riverains sont à bout. Alors pour les convaincre, des visites de la salle de shoot installée près de la gare du Nord sont organisées. C'était le cas hier soir, Faustine Calmel.
D'abord merci d'avoir fait le déplacement, c'est une heure un peu tardive.
20h30, une quinzaine d'habitants suivent Camille, coordinatrice de la salle, à l'intérieur.
On passe juste à côté.
Ici, des cloisons séparent les espaces d'injection et le matériel stérile est à disposition. Les questions porte sur les modalités de consommation, la prise en charge, les types de drogues et l'emplacement de cette salle.
Et la gare du Nord, donc, du coup, a toujours été un petit peu ce nœud.
Celui qui répond, c'est José Matos, chef de service.
Qui fait que le quartier est devenu une scène ouverte de consommation. Donc voilà, l'idée pour nous, c'était de créer la salle à cet endroit-là. Parce que c'est là où se trouve le problème.
La visite se poursuit dehors, dans la rue.
En termes de traces de consommation, il y en a beaucoup moins ici qu'à Stalingrad.
Bruno y vit à Stalingrad, autre scène du crack à Paris.
Ne serait-ce que par intérêt, parce que je souhaite que mon quartier aille mieux, je suis prêt à accepter, bien sûr, une salle de consommation dans mon quartier, à condition qu'il y en ait plusieurs.
Mais seuls les habitants des quartiers déjà concernés approuvent.
Si demain on vous dit qu'on en met une dans votre rue,
chez moi, non, clairement, parce que là où j'habite, il n'y a pas du tout de consommation, donc je ne verrai pas l'intérêt.
Qu'il soit pour, qu'il soit contre, c'est pas grave.
José Matos.
Au moins, ils savent de quoi on parle, et c'est pas juste reprendre des discours de politique ou reprendre des discours des opposants, c'est se rendre compte et savoir de quoi on parle.
Six visites sont prévues jusqu'à la fin de l'année dans cette salle qui accueille chaque jour entre 150 et 180 toxicomanes.
Reportage Faustine Calmel. Une équipe de secours part aujourd'hui au Népal pour retrouver les corps des les trois jeunes alpinistes pourtant très expérimentés, emportés par une avalanche dans le massif de l'Everest. Une équipe de 14 gendarmes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne avec 600 kilos de matériel. Les alpinistes auraient été projetés au pied de la face et auraient fait une chute de plusieurs centaines de mètres. Une bouffée de fraîcheur sur le tennis français. Le jeune Hugo Gaston s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris hier soir en se débarrassant du jeune prodige espagnol Alcaraz. Poussé par 15 000 spectateurs en folie jusqu'à minuit et demi, il sera confronté aujourd'hui au numéro 2 mondial Medvedev, dernier vainqueur de l'US Open. Enfin, un voyage, c'est le titre du nouvel album du groupe ABBA. Il se reforme après un petit intermède de 40 ans. C'est donc un voyage au pays des pâtes d'Ef, du lycra, des paillettes et du fluo qu'il nous propose. 10 titres avec une sonorité presque vintage. Amélie Perrier.